Pour la prédication de ce jour, j'ai reçu une commande spéciale de la part d'Hélène Or et de Romain. Nous poser la question essentielle, à mon avis, de l'existence du mal dans le monde et ce que fait Dieu face à ce mal. Déjà 3 siècles avant Jésus-Christ, Épicure posait cette question de la théodicée, c'est le nom technique en philosophie, pour cette question de l'existence du mal, avec ce paradoxe qui s'appelle donc le paradoxe d'Épicure. Si Dieu est tout-puissant, s'il est conscient de ce qu'il se passe sur terre, et s'il est bon, alors le mal ne devrait pas exister. Et c'est juste comme démonstration. Nous faut donc évoluer dans notre théologie, car cela nous touche profondément, ça touche notre foi, ça touche nos peines, ça touche notre angoisse, ça touche notre action dans le monde et ça touche notre prière. Alors répondre à ce paradoxe, comme certains théologiens, que c'est le grand mystère de Dieu, éclore ainsi la question, c'est une injure à ce que c'est que la foi. Comme s'il fallait renoncer à toute cohérence de pensée pour avoir foi en Dieu. Bien sûr que non. La Bible a heureusement bien plus de ressources que cela, par exemple dans ce passage du livre d'Ésaïe que je vous ai choisi pour ce matin. Ésaïe 42. Voici mon serviteur que je soutiens. Voici mon élu en qui mon âme se complaît. C'est de vous qu'il parle. J'ai mis mon esprit sur lui. Il révélera le droit aux nations. Il ne criera pas. Il n'élèvera pas la voix et ne fera pas de scandale dans les rues. Il ne brisera pas le roseau qui ploie. Il n'éteindra pas la mèche qui fume. Il révélera le droit selon la fidélité. Et lui, il ne faiblira pas, il ne ploiera pas jusqu'à ce qu'il ait établi de l'équité sur la terre et que les îles, les extrémités de la terre, attendent la visée, la Torah. Ainsi parle Dieu l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les déploie, qui étend la terre et ses productions, qui donne la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui la parcourent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé, toi, pour la justice, et je te prends par la main, je te protège, je t'établis pour une alliance du peuple, pour la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs et de leur cachot les habitants des ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux statues. Les premiers éléments sont déjà là. Il en vient de nouveau, moi, je vous les annonce, avant même qu'ils ne germent. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Ô Éternel, par l'étude de nos Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant, effectivement, à ton souffle de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ésaïe évoque la première cause de mal dans le monde et son l'action de Dieu pour y répondre au verset 5 de ce chapitre que je vous ai lu. Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les déploie, qui étend la terre et ses productions, qui donne la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui la parcourent. Alors dans ce passage, Dieu est appelé ici à la fois Dieu, El en hébreu, et l'Éternel, Yahou. Ce qu'il apporte est donc à la fois un acte puissant de création avec le Dieu fort, El, et un acte de compassion venant au secours de ceux qui souffrent, de la création tout entière, avec ce nom Yahvé. Mais dans cette traduction que je vous ai lue, il y a une erreur grave. Elle parle de Dieu qui a créé les cieux au passé. Or, dans l'hébreu du texte, le verbe créer n'est pas à l'accompli, il est au participe présent. Et donc Dieu est créant les cieux, sans cesse en train de créer et de se rendre présent dans le monde. Il est encore sans cesse en train d'étaler la terre, ce qui signifie créer un espace de vie, un espace où la vie est belle, possible. Il est encore en train de donner la respiration et le mouvement, faisant de nous des êtres vivants, capables d'évoluer. Il est toujours en train, chaque jour, de nous donner, à tous, son souffle, son Esprit Saint, comme le dit la Pentecôte. Tout cela, Dieu le fait donc dans le présent, sans cesse. Il s'agit donc d'une création continue. Et cela change tout de dire que la création est continue et non pas simplement une fois dans le passé, comme le pensait par exemple Voltaire avec son dieu horloger qui a créé le monde comme une pendule et puis ensuite qui se contente de la regarder fonctionner sans interférer. Ésaïe, et il n'est pas le seul dans la Bible, loin de là, nous dit que Dieu est sans cesse à l'œuvre pour créer et pour sauver. La création est encore en cours, cela signifie qu'elle est inachevée. Il reste donc dans la création, dans le monde, une part de chaos sur lequel Dieu continue sans cesse à travailler par sa puissance afin de créer du bien à la place du chaos. Le chaos est ainsi la première cause du mal dans le monde. Il correspond effectivement à un certain nombre de souffrances terribles que nous observons dans le monde, dans nos vies. Ça correspond à toutes les catastrophes naturelles, par exemple, à la disparition des dinosaures, jusqu'à la maladie et la mort du nourrisson, ce qui est injustifiable, par exemple. Alors ce n'est pas la volonté de Dieu, car Dieu est et restera toujours source de vie, et non de chaos. Ce n'est pas non plus que Dieu aurait besoin de nos prières pour le tenir au courant de ce qui arrive, ou bien pour le motiver d'agir enfin. Non, chaque fois qu'un de ces drames arrive, c'est que Dieu n'a pas pu l'empêcher dans l'immédiat. Mais il y travaille, nous dit Ésaïe, il y travaille sans cesse. Il est à 100% avec celui qui souffre, pour faire avancer sa situation et pour domestiquer un peu plus le chaos qui règne et qui fait souffrir et qui fait mourir. Et Dieu nous embauche dans ce chantier. Dieu est source d'évolution, il ne peut pas instantanément, en un claquement de doigts, achever l'ensemble de la création du monde entièrement. Il y travaille, dans le temps. « Père, comme le dit Jésus, que ta volonté soit faite. » Oui, nous savons que tu es innocent de ces souffrances, que ce n'est pas ta volonté, ces souffrances, et que tu es la solution. Me voici, que puis-je faire ? Telle est finalement cette prière que Jésus nous invite à dire, à vivre. La création dans les premières pages de la Genèse, ce n'est donc pas une histoire passée, c'est plutôt un programme en cours. Elle parle de Dieu comme entièrement bon, comme source de bonté, de belles choses, comme entièrement créateur, totalement innocent du moindre mal qui pourrait arriver dans le monde, bien sûr, puisque Dieu est amour. Dans cette création, selon la Genèse, il n'y a pas non plus de Dieu méchant, source de mal, comme le pensent les religions dualistes en Mésopotamie antique, mais peut-être encore maintenant dans certains milieux. Non, il n'y a que Dieu, comme puissance transcendante, il agit par étapes, comme dit ici dans le verset 9 de ce chapitre, où Ésaïe dit qu'il y a déjà eu des premières étapes, que d'autres sont en préparation, et qu'elles sont bientôt en germe. Il n'y a donc que Dieu qui est créateur comme ça, étape par étape, et il y a le chaos, ce qu'il reste du chaos primordial, le désordre brut. Qui est neutre, finalement, n'ayant pas de sens, pas de projet ni de volonté. Ce chaos provoque effectivement du mal, de la souffrance et de la mort, malheureusement. Inutile de chercher un responsable derrière ces catastrophes, inutile de chercher une logique, pourquoi est-ce que ça m'arrive ? Non, il n'y en a pas de raison. Et Dieu est à 100% notre allié face à ces coups du sort qui frappent aveuglément, injustement. Dans ce monde, il y a donc le chaos et Dieu qui crée un monde beau, en train de créer un monde plus beau. Et le chaos et Dieu ne sont pas du tout symétriques. Comme le bien et le mal ne sont pas symétriques dans la vie, en réalité. C'est ce que remarque saint Augustin dans son débat avec les manichéens qui, eux, étaient dualistes. Saint Augustin explique que le mal n'est pas symétrique avec le bien. Le mal est en réalité un manque de bien. Il explique « Les ténèbres, l'obscurité, ne sont quelque chose que par l'absence de lumière. Elles n'ont pas de réalité en elles-mêmes. » Et il a parfaitement raison. Il existe des particules de lumière, ce sont les photons. Bon, bien sûr, saint Augustin ne le savait pas. Mais il n'existe pas de particules d'obscurité. L'obscurité, c'est simplement quand il n'y a pas de lumière, pas de photons. L'obscurité est facile, elle est normale. Elle n'a pas besoin d'être créée, pas besoin de cause, il suffit qu'il n'y ait rien. Et c'est la même chose pour le chaos. La science nous dit que spontanément, si personne n'intervient dans un système, tout va évoluer dans le sens d'un chaos croissant. C'est ce qu'on appelle le deuxième principe de la thermodynamique. Mais tout propriétaire d'une maison le sait bien. Sans entretien, elle va se dégrader, un peu ici, un peu là. Et au bout d'un certain temps, 2 ans, 20 ans, 200 ans ou 2000 ans, il ne restera que des ruines de cette maison et c'est donc naturel. La pente va vers le chaos. Il suffit que personne ne s'en occupe. L'inverse demande de multiples efforts. Même une toute petite chaumière ne se construit que rarement toute seule. Ça demande une énergie, ça demande un projet, ça demande du savoir-faire, ça demande de mouiller la chemise. Cela fait que l'existence du chaos et l'existence du mal qu'il provoque n'ont pas besoin de cause pour exister. Il n'y a pas de problème, c'est naturel. Par contre, le vrai miracle, c'est l'existence du bien. Il est toujours improbable, il est toujours stupéfiant, fragile. Le bien, le bon et le beau ne peuvent exister que par une action volontaire, construite, délibérée et bonne, allant à contre-courant du principe de chaos croissant. Vous êtes donc, vous, individuellement, personnellement, le miracle des miracles. Avec votre personnalité, avec votre capacité à aimer, votre capacité à créer des choses nouvelles, c'est un miracle, vous êtes un miracle, surgi du néant. C'est pourquoi, depuis Hésiode et sa théogonie jusqu'à Leibniz et Heidegger, les philosophes se posent cette question bien plus difficile que celle de l'existence du mal. Pourquoi y a-t-il quelque chose en ce monde plutôt que rien ? Ou plutôt, pourquoi est-ce qu'il y a du bien, du bonheur et de la vie plutôt que le seul chaos dans l'univers ? On peut appeler Dieu, ce qui fait que, déjà, ce miracle a eu lieu. C'est donc la première source de mal dans le monde, le chaos, et Dieu sans cesse en train de créer, de poursuivre sa création. Au verset suivant, au verset 6, Ésaïe évoque un appel que Dieu nous lance. Cet appel révèle une seconde source de mal dans le monde et une seconde action transcendante de Dieu, de l'Éternel, dans ce monde. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour la justice, pour une alliance du peuple, pour la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour libérer les prisonniers des ténèbres. Le mal n'est plus ici la conséquence du chaos. Le mal, c'est ici l'injustice. Le mal, c'est le manque d'alliance, c'est-à-dire le manque de relations fidèles entre nous les humains, entre nous et le monde, entre nous et Dieu. Le mal, c'est ici un manque de discernement des personnes, faisant qu'elles sont menées par le bout du nez sans même ouvrir les yeux. Ces mots, ce seconde source de mal, c'est dû à l'humain. Nous sommes la seconde source de mal en ce monde. Il nous faut bien le reconnaître pour avancer. En effet, l'humain, il est créé par Dieu à son image, nous dit encore ce chapitre incroyable qu'est le premier chapitre de la Bible. Avec donc une capacité à créer, avec du libre arbitre, l'humain a donc le pouvoir de faire le bien comme de faire le mal avec cette capacité à créer qu'il a. Alors je disais que dans la théologie de la Genèse, il n'y a pas de Dieu méchant, il n'y a pas de diable à l'œuvre pour faire du mal. Mais le voilà, avec cette seconde source du mal qu'est l'humain, le voilà que le diable montre le bout de sa queue et de ses cornes. L'humain, oui, est parfois diabolique. C'est-à-dire qu'il peut être source d'augmentation du chaos autour de lui et dans sa propre existence. Il peut être source de division entre nous, division avec Dieu, rupture avec Dieu, et puis division en nous-mêmes, ce qui est source de souffrance et de mort dans ce monde. C'est donc là la seconde grande source de mal dans le monde, la folie ou la faiblesse de l'humain. Alors comment est-ce que Dieu réagit ? Il réagit forcément positivement, avec amour, avec créativité, avec cette volonté de salut, bien sûr, qui est annoncée dans ce chapitre. Eh bien, comment il fait ? Il appelle sans cesse l'humain de toutes ses forces pour qu'il soit source de bien et non de chaos. Il nous donne son souffle, le Saint-Esprit, et la capacité à évoluer en ce monde, à changer, à progresser, à s'élever. Il nous appelle par des prophètes et il nous appelle par le Christ. Il nous appelle par la prière, comme nous le dit Jésus-Christ dans son Notre Père. Dieu nous appelle et nous rend capables du bien. C'est son action, là encore, continue chaque jour envers chacune et chacun d'entre nous en ce monde. Il nous prend par la main, nous dit Ésaïe, comme une mère qui apprend à son enfant à marcher. Il nous protège de nous-mêmes et des autres. Il nous établit comme capables de grandes choses, de responsabilités. Et dans la mesure où nous le voulons bien, oui, nous ferons moins de mal en ce monde. Et nous pourrons même aider Dieu à domestiquer le chaos. Car en effet, nous avons des moyens que Dieu n'a pas pour agir dans l'instant, en ce monde, face au chaos qui nous frappe aveuglément. Dieu est une source d'évolution dans le monde sur un temps long. Il n'a pas de main, par exemple, pour relever notre voisine de palier âgée qui est tombée. C'est pourquoi Dieu nous donne son appel et son amour pour que nous nous sentions concernés, que nous ayons cette vigilance, que nous ayons la joie ainsi d'avoir participé au bien, aussi peu que ce soit. Il nous convient donc, je pense, de distinguer le mal absurde qu'est le chaos, du mal méchant de l'humain, car ils n'ont pas le même statut dans notre monde, ils n'ont pas les mêmes causes. Tous les deux nous appellent à agir, bien sûr, avec Dieu contre le mal et la souffrance qui sont arrivés, mais contre le second mal, celui qui est dû à l'humain. Au-delà du secours direct à la personne qui souffre, Dieu nous appelle à un travail d'éducation que développe ici Ésaïe, un travail spirituel, un travail d'alliance. un travail de discernement, d'intelligence, de mise en lumière, un travail de la foi, et puis un travail d'émancipation pour libérer les opprimés et aussi libérer le meilleur de nous-mêmes. Car il n'y a que comme cela, par cette éducation spirituelle et de l'intelligence, du discernement, que nous serons moins source de chaos, mais qu'au contraire, nous serons de plus en plus, avec Dieu, source de ce miracle absolument stupéfiant, qu'est le bien, qu'est la vie, qu'est l'amour, qu'est la lumière, qu'est l'alliance et qu'est la libération d'une créature. Amen.